ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur RCF et vous écoutez votre émission de jazz préférée, comme à la radio. Alors aujourd'hui, nous allons parler de standards de jazz. Et vous savez qu'un même standard reflète des atmosphères différentes selon les époques et surtout les interprètes qui se les approprient. Nous nous retrouverons donc tout à l'heure autour d'un standard de jazz, Autumn Leaves, principal site des buffers et chanteurs amateurs pour découvrir les univers auxquels il a été associé. Mais avant, vous savez que, comme à la radio, démarre chaque semaine par notre coup de cœur pour partager avec vous la joie d'une découverte, voire d'un morceau oublié. Bref, une musique que nous avons envie de vous offrir parce qu'entendre la diversité enseigne la tolérance et parce que le jazz permet d'écouter et d'accepter les différences. Laurent vous propose aujourd'hui...
Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous présenter un trio exceptionnel, celui du pianiste Laurent Coulondre, avec un album enregistré en live au Bal Blomette, une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse, dans le 15e arrondissement. Le trio y rend hommage à l'un des pianistes qui ont le plus marqué le parcours des musiciens de jazz, Michel Petrucciani. À l'occasion des 20 ans de la disparition de celui qui fit comprendre au monde qu'on pouvait être français et néanmoins jazzman exceptionnel, le pianiste Laurent Coulondre s'associe à Jérémy Bruyère, basse et contrebasse, et André Ceccarelli, qu'on ne présente plus à la batterie, qui fait pour faire revivre le répertoire du pianiste aux eaux de verre. Alors une bien belle réussite, il faut le dire. Nous allons écouter la version reconstruite que le trio présente de l'un des morceaux fétiches de Petrucciani, le Take the Hay Train de Duke Ellington, rebaptisé ici She Did It Again.
Thank you.
Bon, fallait oser, hein, le Laurent Coulondre Trio en live, ça dépote, c'était extraordinaire. Et derrière Take the A-Train de Duke Ellington, nous allons aujourd'hui parler d'un thème musical qui est probablement le plus célèbre des standards de jazz. J'aime bien dire que ça s'appelle Les Feuilles Mortes parce que c'est un morceau français, mesdames, messieurs, qui s'appelle Les Feuilles Mortes, et c'est de Prévert et Cosma. Il s'agit pour le jazz d'Autumn Leaves.
Et oui, et l'itinéraire de ce morceau universellement connu n'est pas banal. La chanson dont tu parlais, Les Feuilles Mortes, est bien née en France. C'est au départ un thème uniquement instrumental que Joseph Cosma avait composé pour le ballet de Roland Petit, Le Rendez-vous, et c'était en 1945. En fait, la musique n'est pas totalement originale puisque le refrain reprend un motif composé par Jules Massenet en 1876. Et quand Marcel Carné a tourné Les Portes de la Nuit, il a demandé à Prévert d'écrire des paroles sur ce qui devait être le générique du film et qui, finalement, n'y fera qu'une courte et partielle apparition. Alors, la presse va l'ignorer totalement au grand désespoir de Jacques Prévert. Mais si le film va lui-même être un échec commercial à sa sortie, la chanson deviendra progressivement un succès au fil des années. Et s'en est suivie une bataille médiatique, d'ailleurs, entre Yves Montand et Cora Vauquer, qu'on entend ici en fond musical, pour savoir qui l'avait chanté en public le premier. Pour ce qui est de la partie musicale, Montand, qui n'arrivait pas à faire apprécier la chanson dans ses concerts, prétendait que la mélodie était trop compliquée pour devenir un succès. Eh bien, il avait tort. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter la célèbre version d'Autumn Leaves par Miles Davis et Cannonball Adderley. On va donc passer d'une obscure chanson française écrite pour un bout de film en partie emprunté à Massenet à un standard de jazz universel, le plus universel qui soit. Alors, comment, Laurent, s'est faite cette transition ? Ben, tout d'abord, le succès a fini par venir en France au bout de quelques temps. Et en 1949, Johnny Mercer adapte la chanson en anglais. Ce sera un tournant. Et c'est avec Roger Williams, qu'on entend en ce moment, qu'elle connaîtra un succès fulgurant, malgré le caractère particulièrement lénifiant de l'adaptation. Et le morceau sera succès numéro 1 aux États-Unis pendant 4 semaines. Alors, à partir de là, la chanson va suivre un double itinéraire. À la fois standard de la chanson et standard de jazz. En version chantée, chaque interprète y apporte les particularités de sa voix ou de sa manière de chanter, tout en respectant scrupuleusement le thème musical, sa structure et son lyrisme. Autumn Leaves sera reprise par beaucoup d'artistes, de jazz ou de variété, avec Nat King Cole, Didi Bridgewater, Patricia Barber ou Edith Piaf par exemple. Il en va tout autrement des versions instrumentales. Mais avant d'en parler, on va écouter cette très belle version chantée par Eva Cassidy, une chanteuse américaine peu connue parce que disparue très jeune d'un mélanome et qui a connu la célébrité principalement à titre posthume. Eva Cassidy.
Oh,
Vous écoutez RCF, vous écoutez votre émission de jazz comme à la radio. Et aujourd'hui, Laurent nous parle d'une scie, c'est-à-dire d'un morceau qui est régulièrement massacré par des buffeurs et des chanteurs amateurs. Mais il nous prouve que ça peut devenir un superbe morceau lorsque c'est interprété par des gens comme Miles Davis, Cannonball Adderley ou maintenant Eva Cassidy. Donc on revient à l'émission de ce jour que vous pourrez réécouter, pensez-y, en podcast en allant sur le site de RCF. Aujourd'hui donc Out on Leaves, et Laurent, tu disais que ce morceau avait connu deux itinéraires distincts en tant que standard.
Oui, donc on a évoqué à l'instant les nombreuses versions chantées de Autumn Leaves, très respectueuses du thème pour la plupart, un peu moins pour celle d'Eva Cassidy qu'on a entendu à l'instant. Et dans un standard instrumental, l'approche est le plus souvent différente. L'apport créatif des interprètes se situe à différents niveaux musicaux, le rythme, l'harmonie ou la mélodie. Contrairement à beaucoup d'autres standards, le thème musical du refrain demeure presque toujours dans les interprétations d'Autumn Leaves, alors que le couplet a définitivement disparu dès les premières versions non chantées. Les variantes rythmiques sont présentes, comme au début de la version de Miles Davis et Cannonball Adderley qu'on a entendu tout à l'heure, mais pas très marquées. Les digressions harmoniques sont assez classiques de celles du jazz moderne, donc contrairement à ce qui se passe pour la plupart des standards de jazz, le plus souvent, les versions d'Autumn Leaves respectent à la fois la mélodie, l'harmonie et le rythme du thème. Alors, qu'est-ce qui permet sa présence exceptionnelle dans le répertoire des standards ? Il y a un autre volet de ces standards dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, c'est le côté confrontation, compétition entre musiciens. Le standard, c'est aussi l'occasion de battles, comme on dit en français, entre musiciens. Cet aspect buff avec ses bons côtés par la stimulation qu'il provoque, mais aussi parfois c'est mauvais avec le risque de ressasser des formules éculées. Mais lorsque la confrontation devient complémentarité et synergie, quand elle concerne des monstres sacrés, elle peut être superbe. Alors voici un extrait d'un bel exemple de ce genre avec à nouveau Miles Davis, mais cette fois-ci en compagnie de John Coltrane, c'était en public à Stockholm, enregistré en 1960. Mm-hmm.
écoutiez, quelle surprise, Autumn Leaves, puisque aujourd'hui c'est ce morceau qui est un standard qu'ont joué des dizaines de musicos. Alors c'est à la fois le plus connu, ou un des plus connus, peut-être le plus connu des standards de jazz, et il est un peu atypique, parce que la plupart des musiciens en respectent quand même les bases. Mais Laurent, est-ce qu'il y a quand même des exceptions ?
Eh bien, la réponse est oui.
Oh, incroyable.
Les musiciens de jazz qui composent rêvent tous que leurs compositions deviennent des standards. Mais quand ils jouent un morceau qui est déjà un standard, évidemment, ce rêve ne peut pas se réaliser. Alors leur but devient souvent plus riche, plus profond. Il s'agit de s'approprier le thème, mais en même temps de s'en éloigner, de le recréer, d'en faire une entité propre qui suivra sa trajectoire personnelle. Autumn Leaves n'échappe donc pas complètement à la règle. Et pour terminer cette émission sur ce standard de jazz, nous allons écouter cette superbe adaptation faite par Michel Petrucciani avec Nils Henning Ørsted Petersen à la contrebasse, enregistrée au Jazz House de Copenhague par la radio danoise le 18 avril 1994. Alors, en fait, les deux musiciens jouent deux fois le morceau. Tout d'abord, Michel Petrucciani le développe en solo. Le morceau devient une rêverie dont les bribes du thème ne sont que des réminiscences qui appellent des développements majestueux ou intimistes. Ensuite, les deux musiciens vont reprendre le morceau en développant une interprétation structurée d'une façon plus classique. Alors, c'est avec la première partie, en piano solo, par Michel Petrucciani, que nous allons vous dire au revoir en écoutant ce morceau tout simplement magnifique, Autumn Leaves, par Michel Petrucciani. Au revoir à toutes, au revoir à tous, au revoir Alex.
Au revoir Laurent et merci pour cette jolie interprétation d'Autumn Leaves.